Bonjour à toutes, merci de nous retrouver sur Radio Judaïque à Strasbourg. S'il y a une période de la France qui est une période dramatique, c'est évidemment la période de la guerre d'Algérie en 1962. À ce niveau-là, nous avons et nous allons parler des enfants qui ont vécu cette guerre avec Daphna Pozanski-Benamou. Bonjour Daphna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les enfants de la guerre d'Algérie, le grand départ » aux éditions Ramsay. Juste avant, pour nos éditeurs, vous habitez en ce moment en Israël car vous avez derrière vous une carrière politique.
Oui, enfin j'habite en Israël depuis très longtemps, depuis près de 44 ans. Et en fait, je me suis toujours... Mais justement, il faut remonter à la source de ce livre. La source de ce livre, ce qui se passe, c'est que on est fin juin 62, le port d'Oran est en flammes, je suis une toute petite fille, et je me fais une promesse parce que je me rends compte qu'en quelques secondes, j'ai tout perdu, j'ai perdu mon univers familier, j'ai perdu mon statut de petite fille, je suis devenue une réfugiée. Et alors, je me fais une promesse. Je me dis, jamais, jamais je ne veux à nouveau être un fétu de paille ballotté par les vents de l'histoire. Pour ça, il va falloir apprendre à se battre. Il va falloir vraiment faire des études pour pouvoir se battre. Et je vais tenir cette promesse, c'est-à-dire que je vais apprendre le droit administratif, le droit public, pour défendre les citoyens face aux administrations. Lorsque j'arrive en Israël, je crée une association, la DFI, pour défendre les droits et les intérêts des Français d'Israël. Je suis élue ensuite à l'Assemblée des Français de l'étranger, et là je défends, et ça fait 23 ans que je défends à cette Assemblée, les droits et les intérêts des Français qui résident hors de France, c'est-à-dire 3 millions à peu près de personnes. Donc la promesse que je me suis faite ce jour de fin juin 62, j'essaie de la tenir tout le temps.
Alors, dans votre livre qui revient sur ces événements à l'époque, je dis événements vraiment à propos, on va en parler dans un instant, il y a deux parties dans votre livre. Première partie, c'est votre histoire, votre vie, votre enfance à vous. Et deuxième partie, beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu comme vous, leur enfance en Algérie. Ma première question, c'est quand on lit votre livre, quand vous racontez votre histoire, on a l'impression que c'est très poétique. Est-ce que vous l'avez vu comme ça ou ça a été pour adoucir ce que vous aviez vu?
Non, je l'ai vécu comme cela pour une raison. J'étais une enfant unique et je n'avais pour jeu que de lire tous les livres qui me tombaient sous la main et surtout d'écouter et d'observer les adultes. Et très vite, dès l'âge de 6 ans, je me suis rendu compte que les adultes mentaient aux enfants et ils se mentaient à eux-mêmes. Et donc ça m'a intriguée et j'ai commencé à faire de plus en plus attention. Je lisais effectivement les journaux. Une fois que mes parents avaient lu les journaux, je les prenais, je passais sous le lit et je les lisais jusqu'aux horaires des bateaux. Et en fait, j'ai appris la guerre d'Algérie, qu'on n'appelait pas, que les adultes appelaient les événements, à travers des mots qui me sont parvenus. Bon, c'était des mots terribles. Le premier mot, c'est attentat, bien sûr. Après, c'est opération de maintien de l'ordre, état d'urgence, état de siège, torture, couvre-feu. Vous voyez, c'est ces mots étranges qu'une enfant entend. Et je me suis créé un univers avec ces mots-là. Et j'étais fascinée par ces mots. Et ces mots-là, je les ai gardés, je les ai conservés à l'époque. Et parce qu'ils me décrivaient, la réalité que les adultes ne me disaient pas.
Alors, justement.
Déjà, c'était important, vous voyez, c'était très important.
Justement, Daphna Pozanski-Benamou, c'est ça qui m'étonne un peu quand on lit des livres sur l'Algérie. Effectivement, vous l'avez dit, il y a des événements, des attentats, des plastiquages, des gens qui meurent. Mais en même temps, vous avez toujours cette nostalgie d'enjoliver les choses, de parler du ciel bleu, de parler des belles plages, des belles mers, des saveurs, etc. Est-ce que finalement, il n'y a pas une dichotomie entre ces mots-là que vous essayez d'apprendre en étant petite fille et ce que vous nous racontez par ailleurs, cette vie un peu enjolivée où on vit avec vraiment la nature, proche de la nature?
Mais c'est mon histoire, c'est ainsi que je l'ai ressenti. Pour moi, ces mots qui me décrivaient la guerre étaient articulés avec la réalité, la beauté de la terre d'Algérie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une triangulation familiale qui faisait que j'étais une sorte de témoin privilégié. J'habitais la ville, mais j'allais souvent dans une autre ville qui s'appelait Mascara, où il y avait la famille de ma mère, ou bien dans l'Ouarsenis. Et là, j'étais très proche de la nature, j'étais très libre, je me promenais toute seule dans le village, j'allais partout toute seule. Justement, j'avais cette sensation de liberté absolue. Et c'est cette liberté, cette beauté de la terre mélangée au tragique de la situation qui ont fait que j'ai toujours gardé tous ces sentiments en même temps. Je les ai gardés dans un tiroir bien fermé parce que évidemment il a fallu continuer. Il a fallu oublier pour ne pas se souvenir et après se souvenir pour ne pas oublier.
À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il fallait partir? Est-ce que vous vous souvenez de cette période-là, de ce moment-là?
Alors, on est fin, c'est fin juin, et je vois ma mère jeter une mauvaise valise en carton dans le hall de l'appartement, et je la vois en train de d'emmailloter avec du papier journal qu'elle gardait depuis des semaines sans qu'on sache pourquoi. Les verres en cristal gravés qu'elle avait reçus pour ses noces de ma grand-mère. Et là, je pose enfin la vraie question. Je dis, mais on s'en va? Et là, ma mère me répond, c'est plutôt mon père qui me dit, oui, vous allez partir, ta mère et toi, dans la famille, pour les vacances. Et là, à ce moment-là, je décide d'arrêter ce scénario où on me ment tout le temps. Et je dis, mais on part en vacances avec les verres en cristal de mamie. Parce que là, voilà, on est arrivé au bout des mensonges, en fait.
Mais vous vous dites...
C'est à ce moment-là où, effectivement, en 10 minutes, il faut partir, et puis on se dirige vers le port qui est en flammes, l'OAS a mis le feu aux citernes, et en fait, il n'y a pas beaucoup de flammes, il y a énormément de fumée, une épaisse fumée noire, vous savez, et donc, voilà, je me souviens vraiment d'un tas d'événements, vous voyez. Par contre, le seul moment où je me souviens absolument pas, c'est au moment où j'étais sur la passerelle et où j'ai quitté la terre d'Algérie. Et là, c'est le trou noir.
Alors, malgré votre jeune âge, vous le dites dans le livre, très rapidement, vous comprenez. Il y a quelque chose qui se passe de pas très normal, ou en tout cas de pas habituel. Vous sentiez, quand vous étiez petit, qu'il y avait effectivement des événements où il y avait une guerre, où c'était pas très clair?
Oui, parce qu'en fait, les adultes ne parlent jamais de guerre. Jamais. Jamais. Il va falloir arriver quasiment peut-être en 61 pour que un des articles de l'Écho d'Oran, le journal très lu à l'époque, soit censuré. Et à ce moment-là, pour la première fois, un adulte, mon père, je dis, mais pourquoi c'est blanc? Évidemment, je ne comprends pas pourquoi c'est tout blanc dans le journal. Et là, mon père me dit, c'est censuré. Et je dis, censuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire interdit. Interdit par qui? Pourquoi? Et donc, à ce moment-là, pour la première fois, un adulte me parle de guerre.
Alors, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que, en connaissant votre parcours un tout petit peu, finalement, vous avez quitté l'Algérie et... Baruch HaShem, on va dire, vous en êtes bien sorti. Ça a été difficile de reconstruire sa vie en métropole?
C'est épouvantable. L'accueil a été épouvantable. On était vraiment vilipendés. On nous traitait de colons alors qu'évidemment on ne l'était pas. on était, je pense que j'ai passé la première année à l'école sans ouvrir la bouche, en fait. Mmh. Je pense que je me suis réfugiée dans le silence parce qu'il fallait pas qu'on entende que j'avais un accent qui n'était pas de Marseille, n'est-ce pas?
Mais ça demande un travail de longue haleine, alors, pour être comme les gens qui habitent la métropole.
Ça demande une volonté d'avancer. Une volonté vraiment une certaine résilience qui fait qu'on va avancer, on veut avancer pour justement que ça ne se reproduise plus jamais. Ça, c'est trop dur, donc il faut absolument avancer. Donc pour moi, c'était les études, j'ai choisi de repartir.
C'est quoi le souvenir que vous avez encore de l'Algérie? Tu en avais un qu'il fallait... Hein, qu'il fallait sortir des autres, vous en avez un?
Oui, le moment de la sieste où tous les adultes dormaient, et moi j'étais la reine de ce royaume-là. Tout le monde dormait sauf moi, et là je pouvais admirer les montagnes au loin, je pouvais monter dans les eucalyptus, j'étais libre, totalement libre. Et ça, c'était merveilleux. C'était un sentiment de liberté que je crois que je n'ai plus jamais reconnu, que j'ai plus jamais senti à ce point, à un point aussi fort. Alors, j'étais la reine de ce royaume.
Il y a quelque chose, on va en parler dans un instant avec les témoignages de la deuxième partie de votre ouvrage. Beaucoup d'entre vous n'ont pas voulu revenir en Algérie. C'est votre cas aussi. Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous retient?
Alors, oui, je le raconte, en fait, que c'était... Pour moi, il y avait une sorte de barrière mentale, si vous voulez. Et c'est quand même très douloureux. C'est vraiment un champ douloureux. Et en 2013, mon mari veut me faire une surprise. Mmh. Je me retrouve devant... il me dit, on va à Orly. Je me dis, mais Orly où? Donc, on se retrouve dans la file d'embarquement pour Air Algérie. Et puis, on arrive pour enregistrer les bagages. Et la préposée nous dit, ah, mais vous pouvez pas partir parce que vous n'avez pas demandé de visa. Et à ce moment-là, je me sens apaisée. Parce qu'en fait, je voulais pas prendre cet avion.
Mais pourquoi vous ne voulez pas revenir en Algérie?
Attendez. Pourquoi je ne voulais pas? Parce que demander un visa pour rentrer chez soi, c'est philosophiquement difficile à supporter comme idée. Alors que maintenant que ce livre est sorti, je crois que c'est comme si j'avais porté toute ma vie un très très lourd fardeau, avec plein de grosses pierres, et que tout d'un coup je l'ai déposé. Et que là, je pourrais, avec un regard neuf, retourner en Algérie. Mais avant, je crois que je ne pouvais pas le faire.
Daphna Bozanski, Ben Hamou, les enfants de la guerre d'Algérie. On va faire une pause musicale avec Kendrick Macias. On se retrouve dans un instant.
Piquante et bariolée, parfumée d'orange et de piment. Un régiment d'oliviers bordé de citronniers, avec une maison devant. Mes premières joies du cœur devant un champ de fleurs sont marquées de roses et d'amitié. Quand j'évoque ces instants, je sens que mon accent revient comme il était avant. Sa ride, au talon de ses souliers, quand pour vivre plus tranquille, on doit tout abandonner. Les arcades tamisées où les petits cafés semblent s'allonger sur les trottoirs. La vieille maison de pierre, le coin de cimetière où dort notre page d'histoire. Les couleurs de la montagne sous le ciel qui s'enflamme par le feu tout proche du désert. C'est autant de souvenirs qu'on ne peut pas détruire pour
pourtant ils nous ont fait souffrir. On emporte un peu sa vie au talon de ses souliers. Quand pour vivre plus tranquille, on doit tout abandonner. N'importe où, l'accent nous suit partout, comme une ombre doublée d'un miroir. On le porte comme un drapeau, planté sur chaque mot, depuis qu'on a pris le départ. On emporte un peu sa vie, au talent de ses souliers. Quand, pour vivre plus tranquille, on doit tout abandonner.
Daphna Posanski Benhamou est notre invitée. Elle est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les enfants de la guerre d'Algérie, le grand départ » aux éditions Ramsay. Alors, il y a, on l'a dit avant la pause, une première partie où vous racontez votre vie et la deuxième partie où il y a différents témoignages. Pourquoi ce besoin d'avoir des témoignages d'autres personnes ?
Alors, en réalité, ce livre, il a été écrit pendant 20 ans. Ah. Il y a eu 20 versions. Et je savais, je pensais, et c'était le cas, que personne, aucun éditeur ne serait intéressé à savoir ce que nous, les enfants, nous avions subi et ressenti pendant la guerre d'Algérie. Donc j'avais mis ce témoignage, mon témoignage, à l'intérieur d'un roman. Pendant 20 ans, je l'ai envoyé à des éditeurs et les éditeurs l'ont refusé. Et un jour de juillet dernier, il arrive chez Ramsay et 2 mois plus tard, on me contacte et on me dit « nous, on est intéressés ». Et en fait, 2 mois après, la directrice éditoriale de Ramsay me dit « on est emballé par le livre, mais ce que nous voulons, c'est le témoignage ». Mais j'avais envoyé en même temps mon livre avec 10 témoignages. Et à ce moment-là, Ramsay, les éditions Ramsay me disent « On voudrait conserver votre témoignage avec, avec un peu plus de témoignages. » Et donc, je vais me retourner vers un certain nombre de personnes, qu'elles soient en France, en Israël, à l'île Maurice, en Grèce, en Andorre, en Espagne, et elles vont accepter de témoigner. C'est extrêmement difficile de témoigner. Extrêmement difficile de témoigner.
Pourquoi?
Parce que on est avec ce livre est écrit avec l'encre du chagrin. C'est nos traumatismes. C'est surtout, si vous voulez, une sorte de. Ce livre se veut ni politique ni historique. C'est un combat en quelque sorte pour les sans-voix. Nous, les enfants ou les adolescents, on était des irresponsables politiquement et historiquement, mais on a tout vécu, on a tout subi. Et voilà, c'est un combat qu'il fallait mener. Et là, c'est très important de le mener maintenant. Parce qu'ensuite, il n'y aura plus personne pour parler. Donc, et finalement, les témoins, d'abord, ils n'ont pas accepté facilement. Et ensuite, quand ils ont accepté, ben, très souvent, quand je les ai interviewés au téléphone, ils se sont mis à pleurer. Et je m'en suis beaucoup voulu de leur faire du mal. Et ensuite, ils m'ont tous remercié. Et je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me remerciait. Et ce qui s'est passé, c'est que on était un Shabbat avec mes enfants, et mes enfants me disent « Maman, on est très fiers de toi ». Et là, je ne comprends pas, je suis sidérée, je n'ai mis de quoi. Et ils me disent « Mais non, nous, on avait besoin de cette histoire. Tu as fait œuvre de transmission, tu nous as transmis cette histoire ». Et donc, si vous voulez, je crois que c'était le bon moment, il fallait vraiment l'écrire, cette histoire.
Alors, Moi, je suis évidemment issu de parents qui étaient en Algérie, qui avaient à peu près votre âge quand ils étaient en Algérie. Et je me souviens de mon papa, je parle de lui parce que je l'aimais beaucoup, il est décédé depuis. Il n'aimait pas trop parler de l'Algérie. Est-ce qu'il y avait aussi chez vous des gens qui parlent de ce traumatisme, de ne pas en reparler, d'avoir une certaine omerta sur un certain nombre de sujets où il fallait ouvrir les sujets, même s'ils étaient douloureux?
Non, vous avez tout à fait raison. Nous nous sommes réfugiés dans le silence. Nous ne pouvions pas faire autrement. Personne ne voulait nous entendre. Absolument personne. Personne ne voulait ni nous entendre ni nous écouter. Donc en fait, il fallait se taire.
Mais est-ce que vous vouliez parler? C'est ça la question.
Est-ce que...
Vous vouliez en parler?
J'ai voulu en parler pour justement transmettre. J'ai voulu en parler parce que nous avons vécu vraiment l'histoire en marche, en quelque sorte, et qu'il fallait parler. Il fallait parler, c'est le dernier moment où on peut parler. C'est maintenant qu'on doit parler.
Mais ce qui est intéressant, surtout dans votre témoignage, c'est une sorte d'impuissance. Vous étiez enfant et on a senti une certaine impuissance à changer les choses. Ça, c'est aussi revenu dans pas mal de témoignages. Cette impuissance-là, vous arrivez encore à la, entre guillemets, à la supporter ou à l'adoucir?
Bien sûr, nous étions des enfants, donc on était impuissants, c'est clair. On subissait, on n'a fait que subir, c'est tout. Et donc, en fait, en quelque sorte, vous avez parlé de poésie dans mon témoignage, mais c'était aussi une manière de, justement, de pouvoir s'évader de ce poids du fait qu'on était impuissant en faisant une nouvelle description.
Mais votre histoire...
Ça m'aidait à moi.
Votre histoire, votre récit, franchement, Daphna Bozanski Benhamou, est-ce que en général, les gens qui habitent en Algérie n'ont pas, entre guillemets, l'envie ou l'habitude d'enjoliver le quotidien que vous viviez? Parce qu'il y a d'autres témoignages d'autres personnes qui disaient que finalement, en Algérie, la concorde, c'était pas vraiment ça.
Écoutez, il y a tout dans les autres témoignages, en fait. Il y a tout. Il y a aussi le fait qu'il y avait des liens... évidemment, à la fois parfois forts ou bien ténus, qui existaient entre les communautés. Or ça a été complètement effacé ensuite, hein. Mais pourtant, ça existait. Moi, je me souviens dans les autres témoignages, il y a quand même cette nostalgie, en quelque sorte. Mais il y a toujours la douleur, et je pense notamment à ce témoignage d'un enfant de Harki, où ça, c'était extrêmement difficile d'avoir un témoignage de fille de Harki. Et ça a été vraiment, il a fallu d'abord que je montre patte blanche, en quelque sorte. Mmh. Que vraiment, je dise pourquoi je voulais. Et pour moi, ça aurait été un livre boiteux s'il n'y avait pas eu ce ressenti-là. Et donc, ce témoignage est très douloureux. Il y a des témoignages très douloureux, c'est clair. Il y a des témoignages douloureux. Et en même temps, il y a toujours à la fois cette nostalgie et le témoignage douloureux. Ça, on était des enfants.
Alors, le livre, on le rappelle, Les enfants de la guerre d'Algérie, Le grand départ. Alors, on va le dire, il n'y a pas que des témoignages de gens qui sont de confession juive. Il y a aussi des gens qui sont chrétiens et arabes et musulmans. Ça, c'est important de le dire dès le départ. Vous avez eu combien de témoignages?
Donc, il y a le mien en première partie.
Ouais.
Et qui fait à peu près la moitié du livre, et la seconde partie, il y a 24 autres témoignages, et là, effectivement, il y a absolument des gens qui viennent de toutes confessions, et pas mal de pays également, justement. Mmh. J'ai pu avoir cette chance de voler entre les frontières, justement, par le fait que je suis conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et donc, j'ai pu avoir des contacts avec bien des gens au-delà des... surtout les latitudes.
Votre livre a été écrit, il est sorti aux éditions Ramsay, on l'a dit. Ça vous a fait du bien?
Oui, justement. moi, j'ai déposé le sac. J'ai déposé le sac avec les lourdes pierres.
Quoi, t'es très lourd, ce sac?
Oui, c'était lourd, c'était lourd, c'était lourd. Mais tous les témoins m'ont dit la même chose. C'est ça qui est beau, finalement. C'est qu'en fait, moi, j'étais juste leur porte-parole, c'est tout. Eux, ils ont dit la même chose, ils ont écrit la même chose. Bien sûr, chacun avec son histoire propre et ses propres douleurs. Mais en même temps, on a tous été libérés et tout le monde m'a dit merci, il fallait transmettre. Et on a commencé à parler à nos enfants et à nos petits-enfants.
Mmh. Vous avez, je crois, 3 garçons, me semble-t-il.
Oui, mmh. 9 petits-enfants. Ouais. Maintenant, il faut que ça soit écrit en hébreu. Il faut qu'il soit traduit en hébreu.
Ah ben, peut-être, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous retenez de cette période en Algérie? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent et pour les pousser à lire ce livre? Qu'est-ce que vous leur direz?
Le livre s'adresse pas seulement à ceux et celles qui sont nés en Algérie. Il s'adresse aussi, j'ai parlé beaucoup de transmission, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ce que je voudrais dire, s'il y avait une leçon, c'est encore une fois, il faut se rappeler la promesse que je me suis faite. Il ne faut jamais accepter d'être un fétu de paille balayé par les vents de l'histoire. Jamais. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut se battre pour quand on pense qu'on a raison, quand on pense qu'on a des valeurs qu'il faut défendre, il faut les défendre.
Mais quand vous lisez le livre, il y a plein de témoignages, ils sont remplis de gens qui ont eu des moments difficiles, compliqués. Il faut avoir une sacrée force de reprendre sa vie, de retravailler. Mais quand on est vieux, quand on a des enfants, il fallait peut-être aussi avoir les capacités mentales et morales pour redémarrer, non?
Alors, vous avez tout à fait raison, vous mettez le doigt sur un problème très, alors là, très 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 douloureux. Beaucoup de pères de famille n'ont pas tenu le choc. Ils ont été, on me dit toujours, oui, vous êtes arrivés pendant les 30 glorieuses, tout le monde a eu du travail, mais c'est archi faux tout ça. Ça c'est des salades qu'on nous raconte. Maintenant, on a recomposé l'histoire. D'abord, on a été très mal reçus, hormis la communauté ashkénaze qui nous a tendu la main, personne ne nous a tendu la main, n'est-ce pas? Beaucoup de pères de famille, on retrouve cette histoire-là à nouveau dans les témoignages. Mon père est mort de chagrin et il n'a pas été le seul. C'est-à-dire qu'il y a d'autres histoires comme ça où les pères de famille vont mourir très rapidement, finalement en laissant femme et enfants se débrouiller dans cette nouvelle vie parce qu'ils ont, voilà, ils n'ont pas trouvé leur place sur l'échiquier. Alors, vous voyez, il faut remettre les choses dans l'ordre. Encore une fois, on nous a menti, on nous ment tout le temps sur la guerre d'Algérie. On nous ment tout le temps. L'indemnisation, ça a été peut-être pour quelques-uns et certainement pas pour les autres. On nous ment tout le temps.
Alors,
donc,
il fallait aussi
arrêter ça. Oui. Alors, il fallait arrêter, dire la vérité.
Alors, un mot, parce que le temps file à vitesse grand V. Il y a aussi cette tangente-là dans le livre, on en parle tout le temps, c'est le très mauvais accueil des gens de métropole à votre arrivée. Vous l'expliquez à quoi?
Justement, je l'explique simplement, c'était le wokisme avant l'heure, quoi. Hein? On nous a mis des étiquettes qui ne correspondaient pas à la réalité. Et donc, on a été doublement coupable d'exister, hein, parce que voilà, personne ne nous attendait. Je rappelle quand même que le gouvernement de l'époque avait dit, on va en recevoir 100, il y aura 100 000 rapatriés. En fait, il y a été 1 100 000. Donc évidemment, personne ne nous attendait, il n'y avait rien pour nous. Et encore une fois, seule la communauté juive, qui était à l'époque ashkénaze, nous a tendu la main.
On est bien au courant à Strasbourg de cet accueil des Juifs ashkénazes. Les enfants de la guerre d'Algérie, le grand départ par Daphna Pozanski Benamou aux éditions Ramsey. Je ne peux que vous conseiller à commander, à lire ce livre. Vous allez apprendre plein de choses en même temps. Et les témoignages et votre histoire sont magnifiques. Merci beaucoup et je vous souhaite Clara pour ce livre et à très bientôt.
Merci,
merci à
bientôt.
Au revoir.